Béatrice Gibelin est notre invitée pour cette deuxième heure des matins du samedi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'Institut français de géopolitique de Paris 8 et directrice de la revue Hérodote. On vous doit, outre le livre dont vous avez parlé sur les extrêmes droites en Europe, aujourd'hui le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin, paru cette année donc chez Armand Collin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi à midi, Politique par Hervé Gardette.
Le premier s'exprime sur Twitter de façon compulsive, le second réhabilite les galimatias et la poudre de perlimpinpin. Trump et Macron ont l'air de réinventer la langue politique, mais s'agit-il d'un vrai renouvellement ? Parler vrai et langue de bois, même combat, c'est ce samedi à midi dans Politique.
Politique, ce samedi à midi et sur franceculture.fr.
L'État veut donner un signal fort aux villes moyennes et leur dire qu'elles ne sont pas seules. Voilà ce que déclarait Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, le 30 novembre dernier, lors d'un déplacement à Beauvais. Est-ce que ce signal fort a été donné hier à Cahors, où se tenait la Conférence nationale des territoires en présence du Premier ministre Édouard Philippe et de 13 membres du gouvernement qui étaient venus tous apaiser la colère des élus locaux et présenter le plan national de revitalisation des villes moyennes? Eh bien, ce sera tout simplement ma première question, Béatrice Gibelin. Est-ce que le signal a été fort?
Oui, je pense que le signal a été fort. Il fallait voir le climat dans la discussion post-réunion officielle où chacun avait l'air de parler de façon extrêmement détendue. Il manquait l'association des maires de France qui avait boudé. Son vice-président Léniel avait décidé de faire la politique de la chaise vide sans se rendre compte peut-être que les autres collectivités territoriales étaient là pour discuter. Il y avait les régions, il y avait les différentes intercommunalités, il y avait les départements et qui ont obtenu incontestablement un certain nombre de choses. Il était clair que le gouvernement voulait apaiser des relations qui avaient démarré en juillet de façon un peu rude.
À la première conférence,
où on avait quand même annoncé d'abord la suppression de la taxe d'habitation, mais remplacée par quoi? Donc ça a été vécu, ben voilà, on nous supprime notre seul impôt, et ben on se remet dans la main de l'État, c'est lui qui va nous donner notre dotation globale de fonctionnement, on n'aura pas de marge de manœuvre, voilà, recentralisation, jacobinisme. Le fait que le président de la République ne soit pas un élu local, n'ait aucune expérience d'élu local, évidemment, donner du grain à moudre à tous les élus locaux en disant, mais en fait, il n'y connaît rien et il ne sait
le
pas.
Le Premier ministre, alors, vous parlez du président de la République, mais le Premier ministre
était maire
du Havre.
Et c'est bien pour ça que c'est lui qui est envoyé au feu. Alors, la première conférence, le président était présent. La deuxième, c'est trois jours. À Cahors, c'est pas la première fois qu'on a un gouvernement qui se déplace en province. Généralement, c'est une journée. Bon, et assez rapide. Là, c'est trois jours, 13 ministres. On a pris le temps. Et on a voulu faire savoir qu'on prenait le temps. Et qu'on pouvait aussi écouter et corriger et amender. Et c'est ça surtout qui a, je crois, beaucoup rassuré un certain nombre de représentants des élus locaux. Donc je pense qu'au-delà d'une opération de com, parce que c'en était quand même une, mais il en faut, c'est, je ne le dis pas de façon péjorative, ça fait partie du métier, je pense qu'il y a une reconnexion, si vous voulez, et qu'on a un peu calmé pour partir. Faut voir après la suite, faut voir les actes. Mais enfin, le Premier ministre est arrivé avec quelques annonces qui étaient quand même de poids,
La communication et le symbole font partie effectivement de la politique, symbole du déplacement de 13 ministres et du Premier ministre à Cahors. Pourquoi Cahors ? Préfecture du Lot.
Alors, puisqu'on parle de communication, d'abord parce que Cahors, ça fait de très très belles photos. Parce que c'est une très belle ville avec un vrai patrimoine architectural. Il y a le pont Valentin au-dessus de la rivière. Quand on voit cela, c'est il aurait fait ça si vous voulez. Je sais pas.
Je vais prendre. Attention à ne pas vexer.
Non, mais on va prendre une ville de l'Aisne ou de la Somme. On va prendre des villes qui ont été très détruites par les deux guerres. Voilà.
Bon. Chacun mettra un nom comme il veut.
Comme il veut, mais du coup, si vous voulez, cette très belle pierre calcaire qu'on a, Déjà, c'est un choix qui est, à mon avis, bienvenu. Le deuxième choix, c'est qu'il choisit une préfecture qui est effectivement petite. Et Cahors a perdu de la population, dit-on, au bénéfice de Toulouse. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous allés à Toulouse, mais c'est vrai qu'il y a eu une chute de population. Mais le troisième élément, c'est qu'on a un maire et une équipe municipale qui a décidé de prendre en main le devenir de son centre, le devenir de sa ville, qui ont fait des choix. Par exemple, le choix de laisser l'hôpital en centre-ville. Alors que dans la plupart des villes aujourd'hui, les hôpitaux sont à l'extérieur. Parce que c'est plus facile, l'hôpital était vieux, il est à mettre aux normes, on part sur un terrain vide, on construit, on a beaucoup plus d'espace, on peut faire des parkings pour les visiteurs, bon, tout des tas de bonnes raisons. Seulement, un hôpital pour une ville comme Cahors, c'est quoi, 1000 emplois à peu près. Tous les gens qui viennent voir les malades, c'est aussi de la consommation pour la ville. Ils sont en ville, ils consomment dans les cafés, ils achètent des petits souvenirs, ils apportent des petits cadeaux. Donc, il a fait ce choix. Ce qui est un choix, de mon point de vue, extrêmement intelligent. C'est-à-dire essayer de ne pas mettre les activités de la ville en périphérie de la ville. Ce qui a quand même été, par facilité, je crois, pour des raisons de coût aussi, des choix qui ont été faits avec, pensait-on, une certaine raison de le faire. Mais quand vous mettez une grande partie des commerces dans les galeries marchandes du centre commercial, quand vous mettez l'hôpital à l'extérieur de la ville, quand parfois vous mettez le nouveau lycée que la région a construit aussi à l'extérieur de la ville, quand vous y mettez les activités sportives, parce qu'il faut de la place, on fait des nouveaux stades, on fait des nouveaux gymnases, qu'est-ce qui reste dans la ville si vous regardez bien? Ça peut être parfois un habitat vieilli, qui date du début du 19e, voire parfois plus ancien, qui n'est pas aux normes de ce que les gens veulent avoir aujourd'hui, ne serait-ce que la lumière, par exemple, bon, le chauffage, on n'a pas de garage pour mettre sa voiture, il n'y a pas de jardin, parce qu'on est en ville un peu dense, donc on a tendance à partir plutôt à la périphérie, puisque de toute façon, toutes les activités vont être à la périphérie, parfois même le cinéma. Le multiplex, il est aussi à la périphérie. Puis la pizza pour aller prendre après le film, c'est aussi juste à côté. Donc vous avez bien évidemment des centres-villes. Si il n'y a pas de vrai projet, j'allais dire, politique, porté par une équipe dans la durée, en réfléchissant à ce qu'il faut faire pour maintenir la ville, eh bien vous avez des centres-villes qui sont aujourd'hui, avec pour certains d'entre eux, parfois jusqu'à 30% des commerces, dans les cas les plus graves, qui sont fermés.
Et c'est là que les deux sujets se rejoignent, Béatrice Gibelin, entre l'extrême droite d'un côté et les territoires français de l'autre, puisqu'une étude a récemment démontré que la fermeture des magasins et que l'expulsion donc de tous les services publics dont vous parlez, que ce soit l'hôpital ou que ce soit parfois l'école, dynamise le vote d'extrême droite.
Oui, parce que effectivement, les gens qui restent en ville sont ceux qui ne peuvent pas partir. Soit c'est une population âgée qui a acheté son logement ou hérité de son logement depuis longtemps. Et qui entend quoi? On entend très souvent dans les radios, dans les médias, la spéculation foncière, la montée des prix, la difficulté d'acheter. Or, eux, qu'est-ce qu'ils constatent? Que leur logement, ils n'arriveront pas à le vendre. Qu'il n'y aura personne pour le reprendre. Donc, ils ont le sentiment, mais qu'ils se sont floués. Les autres s'enrichissent dans une spéculation foncière et nous, qu'est-ce qu'on a? Rien. Parfois, on a mis toutes nos économies et puis je vais pas pouvoir vendre cette maison au fond. Si je la peux pas la vendre, elle vaut rien, ma maison. Donc, un sentiment d'être déclassé, d'être abandonné. Et si vous voulez, je suis très réticente au discours sur la France des métropoles, la France périphérique. C'est cette façon toujours de présenter les choses de façon binaire.
Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez parlé d'un centre et d'une périphérie.
Oui, mais je ne dis pas une France périphérique. Je dis qu'il peut y avoir des villes avec des périphéries, d'accord, et que ces périphéries sont dynamisées. Mais j'ai commencé par prendre l'exemple de Cahors, qui justement n'abandonne pas son centre et essaye de maîtriser sa périphérie. Donc ce n'est pas inéluctable, si vous voulez. Et d'abord, toutes les périphéries des grandes villes ne sont pas forcément dans une situation favorable à un vote Front National. Il faut faire attention. La France est un grand territoire que je considère sous-peuplé. puisqu'on est à une densité d'habitat à 110 habitants au kilomètre carré, alors qu'en Allemagne, vous êtes à plus de 300, en Belgique, vous êtes à plus de 300, en Angleterre, vous êtes aussi, pas sur l'Écosse, mais sur l'Angleterre, à plus de 300. Donc, nous, on a un grand territoire avec beaucoup de place. Et du coup, on s'est urbanisé en fait tard. Il faut jamais oublier que l'exode rural en France est tardif. Il est postérieur à la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui nous donne au fond cette nostalgie d'avoir eu longtemps des petites villes animées avec des beaux ruraux animés où il y avait la poste, où il y avait les services de proximité,
une boulangerie,
un brôlier. Bon, c'est pas si loin que ça. Les jeunes vont nous dire, mais enfin, les années 50. Bon, mais il y a des tas de gens qui ont vécu.
C'est mammouth.
Il y a des tas de gens qui ont vécu ça, qui ont connu ça. Donc, on a un exemple. Zone rurale très, très tardif, et on a eu, si vous voulez, un taux d'urbanisation en France qui n'a cru que vraiment dans les années 60. C'est un problème de la démographie française qui était très en avance, disons au XVIIIe siècle, et qui connaît un ralentissement exceptionnel et unique en Europe, et qu'elle ne va commencer à rattraper qu'après la Seconde Guerre mondiale. Il faut toujours se souvenir que sous Louis XIV, la France a 20 millions de Français. L'Angleterre en a 5 à l'époque. L'Angleterre, 20 millions de Français. La France est le grand pays et la grande puissance de l'Europe à ce moment-là. Elle aura 40 millions d'habitants à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? 20 millions d'habitants en plus. Mais vous voyez le temps qu'il a fallu pour le faire. Et entre 1950 et aujourd'hui, on a gagné 25 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on a une reprise démographique absolument nécessaire, mais sur un grand territoire, la France est le plus grand territoire d'Europe. Donc, grande partie de nos problèmes vient de ce sous-peuplement, car comment voulez-vous continuer à maintenir des services, hôpital, maternité, poste, tribunaux, quand vous avez une sous-occupation de ces services-là qui ont un coût? Non seulement ils ont un coût, mais je pense à l'hôpital ou à la maternité, ils peuvent faire prendre des risques si vous les maintenez ouverts.
Béatrice Giblin, sous-peuplement ou inégalité de répartition sur le territoire? Peut-être les deux choses sont liées.
Les deux sont liées.
Je pense à cette enquête là, de cette semaine d'une centaine d'économistes sur les inégalités mondiales en 30 ans, de 80 à aujourd'hui 2016. C'est une étude qui a été publiée jeudi, qui montre que les écarts se creusent, que l'Europe s'en sort mieux et que les autres, et la France en particulier, mais malgré tout, alors c'est des inégalités de richesse dont on parle, mais les inégalités de richesse sont aussi entre les territoires en France.
Oui, bien sûr qu'elles sont aussi entre les territoires en France. Mais ce qui ne veut pas dire que si on habite une petite ville, Autun par exemple, on vit forcément mal. Il faut faire attention à ça. Une grande partie des gens qui habitent dans ces petites villes, ils y ont des conditions de vie. Ils sont souvent bien logés. Ils n'ont pas de problème de déplacement. Ils mettent pas 1h30 pour aller à leur travail et 1h30 pour en rentrer. Ils ont des loisirs dans la nature tout à côté de chez eux. Il y a donc des conditions de vie qui sont pas forcément les plus pénibles qui soient. Faut faire attention avec ça. Donc, c'est là où je vous disais, je n'aime pas trop cette opposition métropole France périphérique, comme si toute la France périphérique était abandonnée. Vous voyez le discours de l'abandon, on est abandonné, l'État s'occupe pas de nous, on est absolument délaissé.
Le discours d'un géographe comme Christophe Guillouis, par exemple.
Par exemple, il le nuance parfois quand on est en débat, il corrige un peu, mais c'est une analyse qui a vraiment servi les représentations de Marine Le Pen et du Front National. De dire, voyez, vous êtes abandonnés, voyez, on s'occupe pas de vous, voyez, l'État est pas présent. Ce qui est faux, à ceci près que l'État ne peut pas tout maintenir quand on se trouve avec des densités de population extrêmement faibles et où, je le redis, il serait dangereux pour un hôpital ou une maternité de la maintenir ouverte quand il y a trop peu de naissances et trop peu d'actes nécessaire à faire en cas, par exemple, d'une naissance qui deviendrait compliquée. Et le jour où il y aura une mère qui va mourir et un gamin qui va mourir, que dira-t-on à ce moment-là?
Et donc il faut repeupler certains territoires français?
Ah ben ce serait l'idéal. Moi je dis toujours une France...
Travailler sur plusieurs leviers.
Une France avec 100 millions de Français, elle irait beaucoup, beaucoup mieux. Pour ça qu'il faut accueillir.
France Culture. France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
On va reprendre cette discussion, Béatrice Gibelin, dans quelques minutes, mais nous accueillons Mélanie Chalandon à 8h30 sur France Culture pour la revue de presse. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Alors c'est une revue de presse avec vous, comme chaque samedi, qui s'intéresse à différentes questions, différents sujets, mais notamment un sujet du jour. En l'occurrence, c'est la une de deux journaux ce matin, et c'est l'apparition d'un monstre.
Oui, c'est l'apparition d'un monstre. C'est ainsi que Libération qualifie ce matin la naissance du nouveau géant du divertissement après le rachat annoncé jeudi de la Century Fox par Disney pour la modique somme de 66 milliards de dollars. C'est comme une fable inédite de La Fontaine, écrit le journal, mais racontée par Wall Street. Elle pourrait s'appeler La souris marrante et le renard à poil dur. Sauf que la souris que Libération affiche en une n'a rien de sympathique. C'est au contraire un Mickey terrifiant, aux dents aiguisées, la bouche pleine de dollars. Alors après l'acquisition de Pixar, Marvel et Lucasfilm, la logique est claire. L'entreprise rachète l'imaginaire pop occidental, écrit Libération. Disney, qui possédait déjà Star Wars, récupère les franchises comme Avatar et Iron Man par exemple. Libération craint une possible homogénéisation du cinéma, de la série et de la culture. L'empire Disney contre-attaque, titre de son côté Le Monde. Ce rachat est avant tout un changement de modèle pour concurrencer Netflix, explique Le Quotidien, car Disney acquiert aussi 30% de Hulu, la plateforme américaine de streaming. Objectif, parer au déclin annoncé de la télévision traditionnelle. Établir une relation directe avec les consommateurs, c'est justement la priorité affichée de Bob Iger, le patron de Disney. Il faut dire qu'après ce rachat, le nouveau géant pourrait proposer plus de titres que Netflix.
Alors ça, c'était pour l'annonce de la fin de la semaine et deux titres du jour. Mais le conflit autour de l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande a aussi fait couler beaucoup d'encre cette semaine.
Oui, c'est le magazine Politis qui identifie la nouvelle bataille à venir. Sur place, rappelle le journal, les opposants ont depuis longtemps l'esprit tourné vers l'après-aéroport et l'avenir des 1250 hectares de terres agricoles de la zone, dont 600 appartiennent aujourd'hui à Vinci, des terres que les zadistes aimeraient réquisitionner, car la ZAD, visiblement à lire Politis, n'a pas l'intention de fermer. Elle fourmille au contraire d'activités sportives, militantes et culturelles. Cela dit, ce deuxième combat sera plus compliqué, admet Marcel Thébault, paysan résistant de la zone, d'un point de vue juridique d'abord, mais aussi parce que les crispations commencent à poindre au sein du mouvement. Depuis l'hypothèse d'une victoire prochaine, chacun se replie sur ses objectifs, constate l'agriculteur. L'enjeu, pardon, n'en reste pas moins énorme, dit-il, car il s'agit d'obtenir la gestion des terres, mais aussi des communs, comme l'eau, les forêts, les haies, les sentiers, les routes, etc.
Tout le monde a un petit chat dans la gorge ce matin, c'est pas grave.
Alors, comment occuper notre sol? C'est aussi la préoccupation de Bruno Latour, qui donne une longue interview à Télérama cette semaine. Il faut pouvoir dire qu'il est juste, qu'il est indispensable de conserver l'appartenance à une terre, plaide le philosophe. Car tandis que les super riches s'enfoncent dans le déni du changement climatique, dénonce-t-il, les laissés pour compte de la mondialisation se sont mis à s'accrocher à des frontières et chercher désespérément un sol plus ferme, plus protecteur. Et c'est normal, dit-il. Populisme, demande le journal. Non, répond Bruno Latour, qui explique que son objectif est d'établir un lien entre ceux du dedans qui s'accrochent à des frontières et ceux du dehors qui ont dû quitter leur ancien sol dévasté. Dire que nous sommes tous en migration, explique-t-il, c'est faire prendre conscience que nous devons habiter autrement cette terre.
On reste dans le champ de l'écologie, mais du côté de la droite et de l'extrême droite cette fois.
Eh bien, on lira avec beaucoup d'intérêt le dernier numéro de la revue Le Crieur, qui consacre un article très fouillé aux contre-révolutions écologiques, ces mouvements qui investissent la défense de l'environnement au nom d'une certaine idée de la place de l'homme dans la nature. Il y a une droitisation récente de l'écologie, explique Noël Mamère, interrogée, comme un ricochet lointain au débat qui avait opposé au sein des Verts Dominique Voynet, ancré à gauche, et Antoine Wächter, tendance conservatrice. On le voit par exemple avec l'écologie intégrale chrétienne issue de la Manif pour tous qui prône le respect d'un ordre naturel, entre guillemets, que ce soit sur des questions de famille ou d'environnement. Il y a aussi la mouvance Nouvelle Droite d'Alain de Benoît qui allie critique de la modernité, de la technique et des lumières. Et enfin les identitaires qui associent défense des frontières et circuits courts. Bref, on apprend grâce à la revue Le Crieur que des groupuscules néofascistes s'intéressent aux ZAMAP et à l'agriculture bio, des mouvements qui restent toutefois minoritaires à l'extrême droite, mais ils pourraient prendre leur place à l'heure où l'urgence écologiste se fait de plus en plus pressante. Il devient donc urgent, peut-on lire, de différencier véritablement critique progressiste et critique réactionnaire du progrès. Tiens, justement, Bruno Latour disait dans Télérama, l'écologie n'est pas une régression, il faut la voir au contraire comme une époque de grande découverte.
le lien, Béatrice Gibelin, qui est notre invitée géographe et géopolitologue, entre territoire et politique, c'est quand même votre sujet.
Oui, pleinement. Et ça fait longtemps que je m'y intéresse. Les géographes ont longtemps vu le territoire comme pouvant s'analyser, s'organiser de façon extrêmement rationnelle. Comme si c'était une affaire technique, si vous voulez.
Bon. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas. L'aménagement du territoire est une affaire politique, c'est une affaire de rapport de force. D'abord parce que les intérêts sont contradictoires entre les uns et les autres, parce que le rapport au pouvoir est tout à fait présent. Autrefois, c'est vrai, c'était l'État qui décidait de tout. Les maires n'avaient, pour ainsi dire, aucune compétence importante. Bon, on était attaché à son maire, mais il n'avait pas vraiment de grand pouvoir. La décentralisation a changé un certain nombre de choses, incontestablement. Ne serait-ce qu'avec le permis de construire que les maires maintenant donnent, alors qu'avant, c'était quand même le préfet qui, in fine, donnait le droit au permis de construire.
Donc, elle a changé beaucoup de choses, mais elle a abouti. Selon vous, cette
décentralisation ? Non, elle n'a pas tout à fait abouti. Elle a du mal à aboutir parce que la façon dont je vois les choses, mais c'est ma façon de voir, hein, j'ai jamais dit que je détenais la vérité. Ma façon de voir, c'est qu'au fond, les Français sont extrêmement attachés à l'État et réclament l'État. Regardez, il vient d'y avoir
les centralisateurs jacobins.
Voilà, là, bien sûr. Au moment où on fait la conférence des territoires, eh bien, on voit des collectivités territoriales qui réclament plus de compétences. Au fond, oserez-vous être girondin, hein, d'une certaine façon. Mais dès qu'il y a une vraie difficulté, par exemple, les infrastructures, vous allez nous les donner, Internet, le haut débit, on va l'avoir, vous allez le payer, la ligne LGV, nous aussi, c'est-à-dire que très vite, en fait, on se retourne vers l'État. Et je pense qu'on est un pays, on se refait pas, hein, notre histoire, l'État a fait la nation en France. Bon. Et on continue de penser qu'on a besoin d'un État fort. On n'est absolument pas dans une logique fédérale. Et c'est toujours un peu, au fond, le paradoxe, entre autres choses.
Titre de votre livre, hein, Le paradoxe français.
On réclame plus de compétences, plus de moyens. Par exemple, une des grandes données qui nous montreront si on a un actuel gouvernement qui est plus girondin que jacobin, c'est la réforme des finances locales. Si vraiment on a une vraie réforme des finances locales, très compliquée, extrêmement difficile à faire, et qu'il ose donner des marges de manœuvre financières aux collectivités locales, avec un contrôle a posteriori, là, on sera vraiment dans une démarche, on va dire, girondine, pour l'opposer au jacobin. Parce que la suppression de la taxe d'habitation, qui a fâché beaucoup des élus, hein, et ça a commencé, les relations ont mal commencé.
Qui a contribué à cette colère.
A vraiment contribué. Or, cette taxe d'habitation est très injuste. Vous habitez une ville qui a de gros moyens, avec une population qui est type Paris, qui a aussi des bons revenus, votre taxe d'habitation est faible. Vous habitez une commune autrefois industrielle, avec une grande partie de la population qui ne gagne pas le salaire médian de la France, mais qui a besoin d'offrir des services parce qu'elle a toute une ruralité derrière elle, elle va avoir une taxe d'habitation très élevée. Donc c'est effectivement un impôt qui est injuste. Et d'ailleurs, l'opinion publique est favorable à sa suppression. Mais les maires ne l'étaient pas, puisque c'est notre seule marge de manœuvre. Donc les finances locales, c'est un vrai enjeu. Pour savoir si on va vers une décentralisation, enfin une attitude girondine par rapport à une attitude jacobine. Mais je pense quand même que les Français, est-ce qu'ils voudraient véritablement qu'on ait un système universitaire qui fonctionne dans une réelle autonomie des universités ? Par exemple, on supprimerait les diplômes nationaux ? Vous mettez tous les étudiants et tous les enseignants dans la rue. Une police qui ne soit pas une police nationale ? Regardez les polices municipales comme elles ne sont pas spécialement vues. Bien vu. Donc je crois que on n'est pas, c'est pas dans notre culture.
C'est ce qui nous différencie de l'Allemagne et de ces Länder dont vous parlez d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Attendez, l'Allemagne c'est très très particulier parce que l'unité de l'Allemagne, c'est quand même la fin du 19e siècle. Hein, c'est après 1871. Ça a été un empire peu de temps, la République de Weimar, puis après, ça a été de nouveau un empire, mais un empire nazi, mais peu de temps. Mais c'était dans une logique de centralisation. Et c'est la tragédie du nazisme qui fait que on n'est pas sur un État centralisé. Le régime fédéral de l'Allemagne, c'est les Alliés qui l'ont imposé, de façon à ce qu'on ne puisse plus jamais avoir un pouvoir très fort, très concentré, on dira jacobin d'une certaine façon, avec une histoire antérieure qui était une histoire d'un morcellement, effectivement, en royaumes, duchés, très très nombreux. La France, sa caractéristique, c'est effectivement d'avoir eu, si vous voulez, une royauté qui va incarner la France, alors que c'est un tout petit territoire, et qu'on aurait... L'histoire aurait pu s'écrire complètement autrement. Rien, en fait, ne donnait à penser que ce tout petit territoire de l'Île-de-France serait un jour, à l'époque de Louis XIV, le plus grand territoire européen. C'est ce que j'appelle une intelligence géopolitique absolument remarquable.
Mais vous parlez de morcellement, Béatrice Gibelin. On pourrait aussi parler de découpage. La France a été découpée en régions, en départements, en villes. Elle a été redécoupée de façon...
Ça.
D'ailleurs, vous donnez toutes les dates de redécoupage en régions jusqu'à la dernière, hein, 2014. Oui. On est passé de 22 à 13 régions. Et vous dites que, finalement, les géographes ont donné à croire à l'existence de régions au sein desquelles l'organisation de l'espace ne pouvait qu'être harmonieuse, équilibrée, et que cette représentation a marqué les esprits au point qu'elle n'a pas encore totalement disparu et que certains élus sont toujours à la recherche des bonnes limites régionales. Or, vous dites, bon, finalement, s'interroger sur le bon découpage de la France, ça n'a aucun... Enfin, ça a du sens, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt
oui,
aujourd'hui.
Je prends toujours aussi l'exemple de l'Allemagne. Regardez, la taille des Länder. Vous avez la Bavière. C'est extrêmement grand, extrêmement riche, extrêmement peuplé. Et puis vous avez un autre land qui est Hambourg, ou qui est Brême, et qui est tout petit, c'est une ville, bon, et dont l'agglomération déborde les limites du land, d'ailleurs. Bon, donc on pourrait dire, ah ben c'est compliqué, c'est vrai, c'est compliqué en Allemagne, c'est très enchevêtré. Mais est-ce que pour autant, ils passent leur temps à se dire, oh là là, c'est pas équilibré, j'ai des petits, j'ai des gros, la Rhénanie-Westphalie, c'est énorme, le Schleswig-Holstein, non, c'est moins important, puis la Saxe, non, ils font... avec ce découpage, et ne le remettent pas en cause constamment. Nous, on a une vision, si vous voulez, qui essaye d'être assez cartésienne des choses. Il faut que ce soit équilibré, alors qu'on est dans une dynamique. Un équilibre, c'est toujours instable, bon, déjà. Et puis, cette idée de l'hexagone, cette figure géométrique qu'on a un peu dans la tête et qui nous pousse à essayer de mettre un peu un certain ordre, si vous voulez, là-dedans. Avant les départements... Sous Louis XVI, il y avait eu cette idée qu'on allait découper la France avec des rectangles qui avaient tous exactement la même superficie. Là, c'était impeccable. Bon, mais bien évidemment, la vie n'est pas celle-là. Donc, on court, à mon avis, après une sorte de chimère en se disant « Ah, ça y est, là, j'ai bon découpage. Là, ça va aller bien. Elles auront le bon poids. » C'est une illusion. Les gens vont se déplacer, ça va jamais fonctionner. Alors on n'a qu'à faire avec ce qu'on a et puis ça ira.
Il y a, ben pourtant, certains ne se satisfont pas de ce qu'on a. En particulier, vous parlez de l'Hexagone. Il y a ce grand territoire hexagonal et puis il y a quelques territoires qui sont autour. Il y en a un en particulier qui est en dessous et qui fait entendre sa volonté.
Parleriez-vous de la Corse ?
Ben, par exemple, victoire des nationalistes dimanche dernier aux élections territoriales. Est-ce que ça, ce serait pour reprendre le titre d'une émission de dimanche dernier de Julie Gacon. Est-ce que c'est une fissure dans l'État jacobin, Béatrice Gibelin ?
Ah, ça peut l'être. Ça peut l'être. Alors, la Corse, je vais envoyer dire vraiment une banalité, mais le fait que ce soit une île joue un rôle extrêmement important dans la représentation que cet ensemble forme vraiment un tout. Détaché, on peut s'identifier complètement aux limites, si vous voulez, géographiques, physiques de ce territoire. Ce qui s'est passé en Corse, une victoire incontestable des autonomistes et des indépendantistes réunis, mais avec un Corse sur deux qui n'est pas allé voter. Donc c'est toujours à rappeler. Alors, ils ont eu tort parce que c'était des élections importantes pour une seule collectivité territoriale, ils auraient dû se mobiliser. Mais c'est aussi le résultat d'une situation politique des partis classiques le Parti radical de gauche qui occupait la Haute-Corse, c'est-à-dire la Corse du Nord avec Jacobi, et puis le parti de droite tenu là par la grande famille Rocasser depuis des générations, était un personnel politique extrêmement corrompu, rejeté par la population, sans que pour autant elle n'adhère forcément au discours des indépendantistes et des autonomistes.
Mais de fait, aujourd'hui, c'est une des collectivités territoriales les plus décentralisées du pays, ce qui fait dire d'ailleurs à Édouard Philippe qu'il est persuadé que la Corse peut constituer un territoire privilégié pour tester et mettre en œuvre le pacte girondin. On y revient.
Oui, mais je ne suis pas sûre que l'exemple de la Corse soit forcément celui qu'on puisse reproduire ailleurs, parce que c'est d'abord petit, hein, c'est 300 000 habitants, un peu plus de 300 000 habitants, avec une configuration de géographie physique très particulière, hein, c'est une montagne dans la mer, donc ça a son rôle là aussi, qui dépend énormément des subsides de l'État. Énormément, ça veut dire que son autonomie, c'est l'État qui va devoir donner l'argent, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sera produit. Et puis moi, j'attends une chose, je ne suis pas Cassandre, mais j'attends une chose, c'est quand on a énormément d'argent à distribuer sur un petit nombre de gens, le clientélisme s'installe extrêmement rapidement, et je n'ai pas l'impression que les mafieux corses vont lâcher la main pour autant.
Voilà, le temps de boire un petit peu d'eau, n'est-ce pas, Mélanie Chalandon, aussi pour vous. Béatrice Gibelin, vous restez avec nous, il est 8h46.